enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, dans une série qui s'appelle « Sachant que votre travail ne sera pas vain » dans le Seigneur. Nous avons déjà vu, premièrement, travail. On s'est posé la question, c'est quoi cette affaire? Est-ce qu'il faut parler de travail dans l'Église? Est-ce que l'Église, c'est un havre de paix, le lieu où on vient se reposer? Est-ce que ce matin, vous êtes venu travailler ou vous êtes venu vous reposer? Est-ce que vous dites, moi, je vais dans la présence de Dieu pour être dans la paix, la joie et me reposer? Ou est-ce que moi, je viens auprès de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux faire tes œuvres et je veux faire ta volonté. Nous avons vu que c'était les deux, que oui, le Seigneur nous donne la paix, nous donne la joie et qu'il y a du repos dans sa présence, mais qu'il nous appelle aussi à son service. Nous avons parlé dimanche dernier que le Seigneur attendait que nous travaillions de mieux en mieux. C'est le verset que nous sommes en train de considérer, 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce matin, je vous invite à considérer, en prenant ce verset-là, à parler de consécration. Travailler, oui, comment, pourquoi, de quelle manière? Et donc, le titre de ce message pourrait être « Qu'est-ce que la consécration ?» Et s'il fallait poser la question ce matin, que répondrions-nous à cette question? C'est quoi ça, la consécration? Je vous laisse réfléchir. Répondez à votre voisin. Demandez à votre voisin, c'est quoi la consécration? C'est quoi quelqu'un de consacré? Qu'est-ce que Dieu attend de nous avec la consécration? Donc, premièrement, essayons de définir ce qu'est la consécration. Et c'est le mot qui manque dans votre bulletin, où on peut parler donc de consécration. Tout commence dans l'Exode. Enfin, j'hésitais parce que ça commence pas tout à fait là, mais bref, dans l'Exode, Dieu, dans sa parole et dans sa loi, invite son peuple à se consacrer. Et il dit simplement, consacre-moi, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Dieu est en train de dire le premier-né de la famille. Est-ce qu'il y a des aînés ici? Des fils aînés? Des filles aînées? Vous appartenez à Dieu. C'était comme ça que ça marchait. Consacre-moi. Mais concrètement parlant, ça veut dire quoi? Consacre-moi. Qu'est-ce qu'il devait donc faire pour les consacrer? Nous avons l'habitude dans cette église de consacrer les enfants. Nous ne les baptisons pas, nous ne baptisons pas les enfants parce que on a essayé de leur demander s'ils étaient d'accord, on avait du mal à comprendre si oui ou non. Alors non, les enfants, nous ne les baptisons pas. Nous baptisons des jeunes, des adultes qui sont volontaires, qui sont consentants, qui disent « moi je veux », qui désirent être baptisés. Nous baptisons pas les enfants, mais nous les consacrons en prenant ce principe-là, en disant « Seigneur, nous les consacrons ». Mais ça veut dire quoi consacrer? Bon, regardez après, allô, Exode 13, 12. « Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. » Pourquoi le premier-né? Ça fait référence, vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, où il y a eu les fléaux en Égypte. Vous vous souvenez, vous connaissez cette histoire, alors que Moïse va amener toutes sortes d'arguments pour convaincre Pharaon de laisser sortir le peuple de la captivité de l'Égypte, eh bien, la dernière plaie, le dernier fléau, va être la mort de tous les premiers-nés. Mais par contre, en Israël, alors qu'ils ont remis du sang d'un agneau innocent sur les linteaux des portes, le premier-né sera sauvé. Et pour rappeler ces choses, et par rapport à cela, l'Éternel donna cet ordre dans ses commandements et dans la loi, « Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux, que tu auras, les mâles appartiennent. » Notez bien qu'il y a cette notion d'appartenance. Tu les consacres parce qu'ils appartiennent. Dans Genèse, chapitre 2, verset 3, c'est donc un peu plus tôt par rapport à l'Exode, il est dit que Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et là, je ne veux pas rentrer dans des choses compliquées ce matin et je vais vous faire grâce des termes hébreux, mais juste pour vous dire que le verbe qui est utilisé ici concernant sanctifia, c'est le même que consacrer. En hébreu, c'est le même verbe pour sanctifier et consacrer. Mais en français, on a deux verbes. Et est-ce qu'il y a une différence entre le premier entre le deuxième? Est-ce que sanctifier et consacrer, ça veut dire la même chose? Si ça voudrait dire la même chose, pourquoi est-ce qu'on aurait deux verbes? Parce qu'on aime les choses compliquées? Parce qu'on aime avoir du vocabulaire? Non, il y a peut-être une nuance, mais en tout cas, dans l'hébreu, c'est la même chose. Sanctifier, consacrer. Donc, c'est quelque chose de très proche. La sanctification et la consécration. Et on va essayer de définir mieux cela ce matin. Dans Exode 28, il est dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Pour les consacrer à mon service. Alors, pour dire les choses simplement, je vous propose cette définition. Consacrer, c'est donner à Dieu. Tu me consacreras ton fils, tu me le donneras parce qu'il m'appartient. Consacrer, c'est donner. Et d'ailleurs, on dit en langage courant, populaire, à quelqu'un, il s'est consacré à cette cause. Il s'est donné sa vie pour cette cause. Consacrer, c'est donner. Et sanctifier, sanctification, c'est séparer, mis à part pour Dieu. Consacrer, donner pour Dieu, sanctifier, mis à part, séparer pour Dieu. Je propose donc maintenant, une fois qu'on a défini sanctification et consécration, de parler déjà de la sanctification et après on parlera de la consécration. Donc premièrement, ou deuxièmement, puisqu'on est déjà rendu au deuxième point, se sanctifier, c'est-à-dire être séparé pour Dieu, être mis à part pour Dieu, sanctifier. Est-ce que c'est un mot important, la sanctification? Est-ce que c'est le genre de mot qu'on devrait entendre parler dans nos églises? Ou est-ce qu'on doit dire, non, mais là, écoutez, c'est trop compliqué, parlez-nous de choses importantes. C'est important, la sanctification. Nous allons le voir au travers de quelques versets, tout simplement. Regardez, dans 2 Corinthiens 6, 16, au niveau, et si vous avez une Bible, je vous invite à tourner la Bible, et à ouvrir la Bible dans 2 Corinthiens 6, 16. Je ne veux pas revenir en arrière, tant pis. Dans 2 Corinthiens 6, 16, et là, il est question de séparation, de sanctification. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Est-ce que nous sommes le temple du Dieu vivant? Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi... sortez du milieu d'eux. Je vais tester le contrôle, ça va être plus facile. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et voyez-vous, il est dit ici, séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Et la question est posée au départ, quel rapport? La sanctification, c'est être séparé, être différent de ceux qui sont sans Dieu. Et s'il n'y a pas de sanctification, ça veut dire qu'on est comme les autres. Est-ce qu'un chrétien doit être comme les autres? Vous allez dire, ça dépend à quel sujet. Est-ce que la coiffure du chrétien doit être spéciale? Est-ce que sa cravate doit être d'une couleur spéciale? Est-ce que sa voiture doit être spéciale? Il dit, oui, il faut le logo, là, avec le petit poisson. Non? Non, non. Comprenez que quand on doit être différent, c'est pas dans ces choses-là. Est-ce qu'un jeune chrétien doit avoir un look différent que ceux d'aujourd'hui? Vous allez dire, ça dépend quel look on prend, hein. On s'entend là-dessus. Mais comprenez que il doit y avoir une différence. Et si quelqu'un n'est pas capable de voir qu'il est en compagnie d'un chrétien, il y a un problème. Si quelqu'un dit, t'es cool, toi, t'es chrétien, je ne savais même pas. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, je ne savais même pas que t'étais chrétien. Toi, t'es quelqu'un de bien, parce qu'au moins, on voit pas trop si t'es chrétien ou pas. C'est ça? Je me souviens d'une jeune fille qui était toute contente d'une cassette de musique qu'elle avait, ça remonte à des années. Elle dit, ça c'est de la bonne musique, c'est de la musique chrétienne. Ouais, c'est de la bonne musique. Je l'ai fait écouter à mes amis, ils ont même pas vu que c'était chrétien. C'est de la bonne musique, ça. C'est ça? Quelle différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Il faut une séparation, il faut une différence. Il faut que dans notre vocabulaire, dans les mots qu'on utilise, est-ce qu'il y a des sacres parmi les chrétiens? Est-ce qu'il y a des mauvais mots? Est-ce qu'il y a des mauvaises paroles? Est-ce qu'il y a des mauvaises attitudes, des mauvaises conduites? Est-ce qu'il y a une différence? Il faut qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y ait une différence. C'est ce qui s'appelle la sanctification. Et je vous rappelle Hébreux chapitre 12, verset 14. Et si ce verset n'est pas souligné dans votre Bible, soulignez-le, écrivez-le en gros sur votre mur. Et s'il fallait me justifier par rapport à la prédication ce matin, je vous rappelle qu'il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et l'apôtre écrit aux Hébreux « Attention !» S'il n'y a pas de sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Ne vous faites pas d'illusions. Si dans votre vie, il n'y a pas de sanctification, vous allez arriver où au bout de votre vie? Dans quelle direction? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un dira « oui, mais ». Jésus nous raconte l'histoire de ceux qui ont dit « oui, mais ». « Oui, mais Seigneur, on a chanté en ton nom ». On a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. Et Jésus va leur répondre, je vous connais pas. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors on comprend avec un tel verset que c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous voulez voir le Seigneur? Est-ce que vous voulez rentrer dans sa présence? Est-ce que vous voulez connaître la gloire qu'il y a dans le ciel, être là dans sa présence et auprès de lui, dans cette place qu'il nous a préparée? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans une certaine circonstance, alors que l'apôtre Paul est en train de faire ses adieux aux anciens d'Éphèse, il est dit dans Actes chapitre 20, verset 32, « Maintenant, l'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Maintenant, je vous recommande à Dieu » et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » L'apôtre Paul parle des sanctifiés, d'une catégorie de personnes qui sont qualifiées les sanctifiés. Est-ce que nous sommes les sanctifiés? Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont appelés les sanctifiés? Allô? Est-ce que vous avez été sanctifié? Est-ce que vous avez été mis à part? Est-ce que vous faites partie de ceux que l'apôtre Paul nomme ici les sanctifiés? Déjà l'Église. Le mot « Église »,« Ecclésia » signifie littéralement « ceux qui sont sortis », »,« ceux qui sont à part ». Déjà ce matin, nous sommes à part en tant qu'Église, parce que nous sommes ensemble. Nous sommes plus de ce monde, dans ce monde, nous sommes ensemble, mis à part. Vous avez consacré, sanctifié votre dimanche matin pour être ensemble. Et pour que ce matin, nous soyons dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, que ce temps soit pour toi. L'apôtre Paul parle de chrétiens, parle des églises et dit, ce sont les sanctifiés. Regardez encore quand il écrit aux Corinthiens, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc c'est le début de sa lettre, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Il écrit à cette église en disant, à vous qui avaient été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, sanctifiés, mis à part. Vous avez été sanctifiés. Est-ce que vous avez été sanctifiés? Est-ce que Jésus-Christ, de la même manière que les chrétiens de Corinthe ont été mis à part, sanctifiés en Jésus, est-ce que vous avez été mis à part? Est-ce qu'un jour vous avez dit, Seigneur, je te donne ma vie, elle t'appartient. Je veux être à part, je veux être avec toi. Vous savez, quand on est avec Jésus, on n'est pas avec le diable. Quand on est avec Jésus, on n'est plus dans les principes du monde. Quand on est avec Jésus, on est différent des autres. Et vous savez, il suffit pas de longtemps pour que les autres voient. Quand un jeune est engagé avec Jésus et qu'il est à l'école secondaire, qu'il est au cégep, vous savez, ça ne met pas longtemps avant qu'on voit une différence. Non? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ceci? Pourquoi? Parce que je crois en Jésus. Et si quelqu'un affirme sa foi, si quelqu'un témoigne de sa foi, il y a une séparation et il y a une différence. Et c'est normal. Et nous n'avons pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de qui qu'on croit. Mais nous voulons proclamer avec force et assurance, je sais en qui j'ai cru. Et il m'a mis à part. Il m'a sanctifié. Il m'a séparé. Et nous n'avons pas à avoir peur d'être à contre-courant parce que nous sommes dans la bonne direction. Vous savez, il y a une image qu'on utilise par rapport au saumon. Je crois qu'il y a des saumons, hein, par ici. Il y a des rivières à saumon dans le coin, là. J'en ai vu en Gaspésie, mais je sais pas trop si du côté de Romainville, des rivières à saumon. Vous avez remarqué que le saumon, lui, il va dans le sens contraire du courant. Le saumon remonte le courant. Nous sommes appelés à être des saumons qui remontent le courant. Parce que les poissons qui descendent le courant, ce sont des poissons morts. Non? Un poisson mort, il va dans quel sens? Il suit le courant. Le poisson vivant, le saumon vivant, il remonte le courant. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur d'être à contre-courant. Parce que nous savons où nous allons. Et nous sommes dans la bonne direction. Jésus était lui-même à contre-courant par rapport à la société dans laquelle il était. Il y a eu toutes sortes d'oppositions et d'obstacles. Il dira, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce qu'on m'a fait, on vous le fera aussi. Et nous aussi, nous sommes appelés à marcher à contre-courant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, l'apôtre Paul fait encore référence au passé. Il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ. Oui, avant, nous étions comme eux. Nous étions de ce monde, nous étions pécheurs, nous étions perdus. Mais nous avons été lavés. Lavés dans le sang de l'agneau. Souvenez-vous de la vision de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, qui voit cette multitude dans le ciel. Qui sont ceux-là qui chantent et louent la gloire de l'agneau de Dieu? Et on lui répondra, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Nous avons été lavés, lavés de nos péchés, lavés de notre honte. Il nous a transformés, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Il nous a revêtus d'un vêtement blanc, d'un diadème, et nous pouvons maintenant marcher à sa suite en disant « je suis différent ». Parce que c'est lui qui a fait une œuvre de transformation dans notre vie. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, c'est le Notre Père. Il y en a qui connaissent le Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Que ton nom soit sanctifié. Si on garde notre vocabulaire, la manière dont on veut le définir simplement, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit séparé. Et peut-être tout simplement dans la vie pratique de tous les jours, commençons par éviter de mettre le nom de Dieu partout. Non? Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non? Il y en a qui utilisent le nom de Dieu partout. Ça, c'est pas sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le mettre à part. C'est le respecter. C'est l'honorer. Et c'est dire, Seigneur, ton nom est grand. Et nous voulons rendre gloire à ton nom. Et aussi rendre témoignage de tout ce que tu as fait pour nous, de la manière dont nous avons ton nom dans notre bouche. Et quand quelque chose de bon se passe pour nous, sachons rendre gloire à Dieu et le sanctifier. Et dire, tu vois ce qui s'est passé dans ma vie, tu vois tel événement, telle chose, c'est Dieu qui a agi en ma faveur. C'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a relevé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 1er, il est dit, ayant de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été mis à part en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Mais il dit maintenant, il faut continuer, achevez votre sanctification. Et le Seigneur est venu faire un grand ménage dans notre vie. Il a tout changé. Notre cœur ressemblait à la chambre d'une adolescente, non ? Ou d'un adolescent, c'était un peu compliqué. Et le Seigneur a fait du ménage. Il a tout changé, non ? Notre maison était en ruine, il a tout changé. Mais il faut entretenir maintenant. Vous savez, si quelqu'un vient faire le ménage chez vous et que tout est beau, tout brille, vous dites, c'est formidable, ça a tout changé chez moi, certains diront, mais c'est déjà beau, ça brille. Oui, j'en doute pas. J'en doute pas, mais c'est qu'une image, c'est qu'une illustration. Supposons. Et que tout soit beau, tout brille. Mais si après vous prenez plus la poussière, si vous nettoyez jamais, ça va se dégrader. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul dit, achevez votre sanctification. Poursuivez. Continuez. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que oui, le Seigneur a changé notre cœur. Oui, le Seigneur a purifié nos âmes, nous a lavés, nous a transformés. Mais il faut maintenant persévérer. Il faut maintenant achever notre sanctification, notre séparation. Rester à part. Pas revenir, mais rester à part. Et être de plus en plus près de Dieu, reprenant ce que nous disions la dernière fois, de progrès en progrès. Dans l'Apocalypse 22, 11, il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. On va rester sur cette dernière phrase, que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous ne sommes pas encore arrivés. C'est pas le temps de se relâcher. C'est pas le temps d'être négligent. Poursuivons que celui qui est saint se sanctifie encore. L'apôtre Paul parle d'une course. Et lorsqu'on est en train de faire une course, que ce soit le marathon ou n'importe quelle course, quand on n'est pas arrivé, on continue à courir encore. Et laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas encore arrivés. Et ce serait dommage de s'arrêter avant la ligne d'arrivée. Si vous faites un marathon et que vous courez vite et que vous êtes devant tout le monde et vous avez fait là, je ne sais plus combien de kilomètres, c'est 42 et 4 kilomètres, c'est ça ? Le marathon ? Oui, à peu près. Et si vous arrivez à 40 kilomètres, vous dites, bon, hey, j'en ai déjà fait 40, ça suffit, je vais m'arrêter là. Et il n'y aura jamais de prix, il n'y aura jamais de médaille, il n'y aura rien. Que tu abandonnes à 40 kilomètres, à quelques mètres de la ligne d'arrivée ou bien avant, ça ne fait pas de différence. Tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée. Nous avons une course, nous avons une mission. L'apôtre Paul parle d'une course en parlant d'une clairière là, qui nous est ouverte et nous dit qu'on doit courir et persévérer pour remporter le prix. Et si nous voulons remporter le prix de notre vocation céleste, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, si nous voulons remporter ce prix, il nous faut franchir la ligne d'arrivée. Et pour franchir la ligne d'arrivée, il faut aller jusqu'au bout. Il faut continuer. Il faut persévérer. Et que celui qui est saint se sanctifie encore, c'est pas le temps de se relâcher. Quelqu'un dira, mais comment se sanctifier ? Jésus va prier pour les siens dans Jean 17, 17. Et il va dire, Seigneur, alors qu'il prie son Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Jésus va dire, sanctifie-les, Père, par ta vérité. C'est la vérité qui nous met à part. C'est la vérité qui nous sanctifie. Ta parole est la vérité. Si vous avez besoin de sanctification dans votre vie, et on en a tous besoin, et parce que nous avons besoin de sanctification, nous avons besoin de la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu dans votre vie, la sanctification, elle est où? Puisque c'est par ta parole que l'on peut être sanctifié. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si vous voulez être mis à part, si vous voulez connaître ce que Dieu attend pour vous, si vous voulez connaître le chemin que Dieu veut que vous empruntiez, vous avez besoin de la parole de Dieu, d'une révélation fraîche qui parle à vos cœurs, qui vous montre le chemin. Vous avez besoin de sa parole pour faire sa volonté. Comment être sûr de savoir que l'on fait la volonté de Dieu si on ne connaît pas sa volonté? Et comment connaître sa volonté si on ne lit pas la Bible? Nous étions hier au parc Woodyard pour évangéliser Drummondville. Du moins, j'étais hier au parc Woodyard pour évangéliser Drummondville, le seul et l'unique représentant de l'église de Pentecôte de Drummondville. Et nous parlions à des jeunes, à des gens qui étaient là, et nous leur disions, « Hey, Dieu, il t'appelle, il y a quelque chose pour toi. » Et il y a plusieurs personnes qui répondaient, « Non, non, mais moi, j'ai mes affaires, j'aime Dieu à ma manière. Moi, je connais Dieu à ma manière, j'ai pas besoin. Je crois dans un Dieu suprême. » Il y en a d'autres qui disent, « Dieu, c'est moi, je crois en moi. » Elle dit, « Mais comment est-ce que ce que vous croyez, comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est vrai ? Comment est-ce que quelqu'un dira, « Mais moi, je crois Dieu à ma manière. » Oui, mais ton Dieu est ta manière. Comment être sûr que c'est vrai ? Comment être sûr que c'est vrai que tu ne te trompes pas ? Quelqu'un pourra nous poser la question, « Mais vous, comment est-ce que vous pouvez être sûr que votre foi est vraie, que ce que vous croyez, c'est vrai ?» Parce que ce que nous croyons, ce n'est pas la base d'une intuition. Ce que nous croyons, ce n'est pas ce que nous avons envie de croire. Ce que nous croyons, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Et sans la parole de Dieu, on est dans le noir. Et toutes sortes de personnes ont toutes sortes de croyances basées sur rien. Nous basons pas notre foi sur ce que nous avons envie de croire, sur des principes, sur des choses humaines, mais nous basons notre foi sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous dit. La Bible est la vérité. Ta parole est la vérité. Et cette parole vient parler à nos cœurs, vient nous sanctifier, vient nous mettre à part. Dans Éphésiens chapitre 5, il nous est dit comment Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et la parole encore est ici en relation avec la purification et la sanctification. Il y a besoin de la parole de Dieu dans votre vie pour être sanctifié. Et je vous invite, si vous avez délaissé la lecture de la Bible ces derniers temps, si vous avez délaissé l'impact que peut avoir la parole de Dieu dans votre vie, à revenir à la Bible, à revenir à la parole de Dieu, à entendre à nouveau la voix de Dieu. Nous disons, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et quand vous lisez la Bible, priez avant de lire la Bible en disant, « Seigneur, parle-moi. » Qu'au travers de cette lecture, eh bien, ce soit ta voix qui se fasse entendre à mon cœur, que ce soit pas là des mots, des paroles, des histoires, mais que ce soit Dieu qui se révèle à moi, qui parle à mon cœur. Nous avons tous besoin de sa parole. Et sa parole va nous aider à nous sanctifier, à être à part et à marcher pour lui. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il a dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce que Dieu veut pour toi ce matin, c'est ta sanctification. Je reprends, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et s'il y a des choses impures dans ta vie, s'il y a des choses qui ne sont pas dignes de Dieu, il faut se séparer, il faut trancher, il faut rejeter et repousser afin de marcher dans la sanctification, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas correctes, si dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, lâche ces choses. La parole de Dieu est là pour t'aider. Elle est là pour te sanctifier, te mettre à part et t'amener à une conviction que en Christ, nous avons tout, qu'il est notre justice, notre sanctification et que c'est lui qui nous purifie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est la sanctification. Maintenant, il y a un autre terme, c'est la consécration. Troisièmement, se consacrer, c'est donner à Dieu. Et je crois que ça commence par la sanctification et qu'ensuite, il y a la consécration. Il faut premièrement se mettre à part. Il faut premièrement mettre sa vie en règle. Il faut premièrement marcher dans les principes de la parole de Dieu. Il faut premièrement dire, Seigneur, je veux rien d'impur dans ma vie, mais je veux être saint, sanctifié pour toi. Et ensuite, il y a la consécration. Mais on a vu qu'en hébreu, c'est la même chose. Donc on ne va pas dire première phase, deuxième phase. Ça doit marcher ensemble, c'est un tout. Se consacrer, c'est donner à Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Et peut dire aux Philippiens, j'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. L'apôtre Paul parle de ceux qui cherchent leur propre intérêt, de ceux qui cherchent leur avantage, de ceux qui veulent vivre leur vie pour eux-mêmes, et ceux qui se consacrent à Dieu, qui donnent leur vie à Dieu. Timothée s'est consacré au service de l'Évangile. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, 1 Timothée 4,15, « Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » On a cité ce verset dimanche passé concernant les progrès, mais là je veux insister sur le mot « donne-toi tout entier à elles ». Timothée, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles. En ce qui concerne notre implication dans la vie chrétienne, en ce qui concerne notre marche avec Jésus-Christ, en ce qui concerne notre façon de vivre notre foi, est-ce que nous nous occupons de ces choses ou c'est juste une affaire du dimanche matin? Et encore mieux comme question, est-ce que nous nous donnons tout entier à la cause de l'Évangile? Est-ce que nous nous donnons tout entier pour notre Dieu? Est-ce que nous nous donnons tout entier pour l'avancement du royaume de Dieu? Quelle est notre part dans l'Évangile? Quelle est notre part dans la proclamation de la bonne nouvelle? Quelle est notre part dans le salut de Drummondville? Est-ce que nous nous donnons tout entier ou nous donnons ce que nous avons envie de donner? À un moment, Jésus a vu ceux qui donnaient leur superflu. Ils donnaient ce qu'ils avaient en trop. Ça, c'est pas de la générosité. Quand on donne ce qui nous gêne, c'est pas de la générosité, c'est parce que ça nous embête. C'est notre superflu, c'est ce qu'on a en trop. Vous savez, il y en a qui pensent être généreux parce qu'ils donnent des vêtements à une friperie, mais des fois ils donnent les vêtements juste parce que ça encombre leur placard. C'est pas de la générosité, ça. Non? Tant mieux, ils font quand même une bonne œuvre parce qu'ils vont aider des gens. Mais vous pouvez dire, regardez comme je suis généreux, je donne tout ça. Non, non, si tu donnes ça, c'est parce que ça t'embête, ça t'encombre, tu sais pas quoi en faire, alors tant qu'à faire, tu le donnes aux autres. C'est pas ça, la générosité. Donne-toi tout entier. Et en ce qui concerne notre implication dans l'Évangile, est-ce qu'on donne simplement le temps qu'on a en trop? Si vous avez du temps en trop, oh, je m'ennuie. Je sais pas quoi faire. Ah ben, je m'ennuie le jeudi soir. Comme je m'ennuie, je vais aller servir à Alpha. Ça va m'occuper. Est-ce que c'est la motivation de notre service? On va à l'église, on va travailler pour Dieu parce que ça nous occupe, parce que sinon on s'ennuie. Ou est-ce qu'on se donne tout entier? Est-ce que c'est ça la consécration? C'est donner à Dieu. Et c'est donner quoi à Dieu? L'apôtre Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier. Est-ce que notre vie avec Dieu, c'est juste un peu? Vous allez dire, ah, c'est déjà pas mal quand même, c'est plus que d'autres. Peut-être. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est nos vies, c'est notre cœur. Et qu'on peut dire, Seigneur, je suis tout à toi. Il n'y a rien de plus important que toi dans ma vie. C'est ça, être consacré. Aux Romains, l'apôtre Paul peut dire, ne livrez pas vos membres au péché, ça fait référence encore à la sanctification, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. L'apôtre Paul dit aux Romains, donnez-vous à Dieu. On raconte cette histoire qui s'est passée en Afrique. Oh, c'est une histoire qui a été racontée un peu partout dans le monde, mais je vais la raconter encore quand même ce matin. Je pense que vous l'avez déjà entendue, mais tant pis. Dans la plupart des églises en Afrique, quand c'est le temps de l'offrande, le service de l'offrande, c'est pas les préposés qui vont dans les places pour passer le panier de l'offrande, mais le panier de l'offrande est là devant et c'est les gens qui sortent de leur rang pour venir déposer ce qu'ils ont dans le panier de l'offrande. Et là, c'était des plateaux. Et on raconte comment, je me souviens plus trop des détails, enfin, un jeune enfant a mis les deux pieds dans le plat. S'est mis dans le plateau en disant, j'ai rien à donner. Mais je me donne moi comme offrande. Allô? Est-ce que c'est ce qu'on est capable de faire avec Dieu? De dire, Seigneur, je ne veux pas te donner ce que j'ai en trop, ce que je ne suis pas capable de faire, ce qui m'embarrasse, ou donner ce que... Mais je veux te donner tout ce que j'ai. Donnez-vous vous-même, dit l'apôtre Paul aux Romains. Offrez vos membres. Offrez-vous comme instrument de justice. Et dire, Seigneur, que ma vie, elle te glorifie. Que ma vie soit pour toi. Je veux tout donner pour toi. La consécration, la sanctification, c'est se séparer. C'est ne plus marcher selon les principes de ce monde, mais c'est marcher avec Dieu. C'est la sanctification. La consécration, c'est donner à Dieu. Un jour, nous lui avons dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Est-ce que nous étions honnêtes lorsque nous avons dit ces choses? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes encore capables de dire, Seigneur, je te donne mon cœur? Est-ce que notre cœur lui appartient? Est-ce que notre vie appartient vraiment à Dieu? Allô? Vous savez, des fois, on réalise qu'il y a un décalage dans la vie chrétienne entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. J'aimerais ce matin amener simplement à la réflexion et dire à chacun où j'en suis dans ma sanctification, dans ma consécration. J'aimerais qu'on passe directement à la conclusion. En conclusion, aux Colossiens, chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Si tu travailles, que ton travail, tu le fasses comme si c'était Jésus ton patron. Tu le fais pour lui de bon cœur. Si tu œuvres, si tu es à la maison, si tu travailles à la maison, ce que tu fais, fais-le comme si c'était pour Dieu que tu le faisais. Si tu es à l'école, tu travailles tes devoirs de mathématiques, fais-le comme si c'était Jésus ton professeur. Et que tu voulais qu'il soit fier de toi. Non? De bon cœur. Fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et il est dit au verset 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, votre travail ne sera pas vain. il y a une récompense, il y a un héritage. Il y a quelques versets que vous pourrez lire, que je ne citerai pas maintenant, mais qui sont dans votre bulletin. Il y a, oui, un héritage, une récompense pour ceux qui travaillent. Et j'invite ce matin chacun à se sanctifier, à se consacrer. Je vais inviter les musiciens à s'approcher en disant, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Qu'on puisse dire ce matin, Seigneur, je veux faire de bon cœur. L'apôtre Paul dit, servez Christ le Seigneur. Nous avons fait le bilan la dernière fois en disant, est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que nous servons bien? Est-ce que nous le servons lui? Est-ce que nous sommes consacrés à lui? Est-ce que nous avons dit un jour, Seigneur, tout est à toi? Alors qu'on puisse dire maintenant, Seigneur, que dans ma vie, à chaque heure, à chaque moment, chaque jour, tout soit pour toi encore. Je vous invite à vous lever, qu'on puisse peut-être nous reconsacrer, s'il le fallait, à Dieu ce matin, ou peut-être refaire un engagement en disant, Seigneur, je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne toute ma vie. Elle est à toi. Alléluia.
Qu'il y a des meilleurs, tout est à toi, Jésus.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.